Radio Kapi.
Oh, Kapi. 12h à Kinshasa, le journal Pascal Massirika.
À la une de l'actualité ce midi, 35 corps repêchés et une centaine de personnes portées disparues, bilan du naufrage survenu mardi soir à Bumba dans la Mongala. En cause, la surcharge de 9 pirogues motorisées qui transportaient à l'occasion plus de 300 passagers et des marchandises. 7 personnes tuées et plusieurs maisons saccagées, bilan d'une double attaque des miliciens de la Codeco à Rimba et à Ou, en territoire de Mahagi. Les ambassadeurs de la bonne volonté parlent de barbarie ayant ciblé des enfants parmi les victimes. Notre invité, c'est Didier Kamundu. Dans une lettre ouverte adressée au président Félix Tshisekedi sur l'impasse dans la désignation des membres de la CENI, ce député national plaide pour que la présidence de la CENI soit confiée à une femme. Madame, messieurs, bonjour. Drame à Bumba dans la province de la Mongala à la suite du naufrage d'un convoi motorisé dans la nuit de mardi à ce mercredi. 9 pirogues motorisées transportaient plus de 300 passagers et des marchandises. Le bilan provisoire fait état d'environ 35 corps repêchés et plus de 100 personnes portées disparues. Parmi les causes, la surcharge. C'est ce que nous raconte Mbandaka Paul-Richard Malengela.
Des témoins joués ce matin à Bumba affirment que des recherches se poursuivent encore avec des moyens de bord, notamment par des services de sécurité dont des éléments de la force navale assistés des pirogues riverains, a précisé l'administrateur du territoire de Bumba. Michel Manzia ajoute que le gouverneur intérimaire de la Mongala est également attendu ce jeudi dans la ville pour apporter son appui. Jusque-là, le bilan provisoire est d'une quarantaine de corps repêchés, plus de 100 personnes portées disparues. Environ 300 personnes étaient à bord de l'embarcation naufragée. Certains corps repêchés déjà en décomposition ont été enterrés sur les lieux mêmes. La plupart des victimes sont des commerçants et des jeunes vacanciers qui retournaient à Bumba. Il y avait aussi un important lot de marchandises, dont des sacs de maïs, d'autres vivres, des planches et des briques cuites, ce qui explique la surcharge qui est la principale cause de l'accident. Notons que le naufrage a eu lieu plutôt à Ngengele, à 24 km sur le fleuve Congo en amont de Bumba, dans la nuit de mardi entre 23h et minuit. Mais le convoi de 9 pirogues motorisées provenait de la localité de Moenge, dans la province de la Tchopo, à plus de 150 km de Bumba. Mbandaka pour Chama Lingela Radio Okapi.
Politique à présent, l'implication de l'Église catholique dans le processus de désignation des membres de la CENI vise à sauvegarder la démocratie pour le bien-être des Congolais. Et c'est ce qu'a affirmé hier le nonce apostolique à l'issue d'un entretien avec le président de l'Assemblée nationale. Monseigneur Hetero Balestrero a indiqué que le dialogue et la consultation sont la preuve qu'il est possible d'aboutir à un consensus qui conduit à la victoire de la démocratie dans ce pays. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
Je suis venu car il m'a appelé. On parlait de plusieurs sujets parmi lesquels on a parlé aussi de ce processus électoral. Et je lui ai dit que le seul objectif pour lequel l'Église catholique participe au processus électoral, c'est de donner sa contribution à la démocratie en RD Congo, à travers des élections qui soient inclusives, crédibles et apaisées en 2023. Et que le bien-être du peuple congolais en dépende, et qu'il y a la possibilité de continuer dans ces processus pour avoir un consensus qui soit la victoire de la démocratie, la victoire de l'indépendance. Et c'est aussi la raison d'être des confessions religieuses dans la plateforme qui existe précisément pour avoir des positions communes sur des sujets qui sont importants pour le bien-être du pays.
Et puis, l'Assemblée nationale a convoqué ce jeudi une plénière. La réplique du ministre de Pétentique sur la taxe RAM, bien que très attendue par l'opinion publique, n'est pas retenue parmi les 3 points inscrits à l'ordre du jour. C'est confié en Radio Capi aujourd'hui. L'auteur de la question orale estime que ce 3e report est une preuve que le ministre de Pétentique n'est pas disposé à venir répondre aux préoccupations des députés nationaux. Pour Claude Misseret, au cours de la séance plénière du 26 septembre dernier, le ministre Kibasa a sollicité 48 heures. Les différents reports non justifiés violent la procédure parlementaire conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il le dit à Michel Kifindangoy.
on a reporté la séance du vendredi, mais le mercredi, on nous envoie un message pour nous dire que non, la séance est reportée à une date ultérieure. Nous sommes déçus parce que c'est toute la population qui attendait la suppression de la taxe RAM. Que l'Assemblée nationale cesse de perdre le temps pour rien. Le ministre Kiba Samalibassir, ce dossier RAM, il ne sera jamais prêt, il n'aura jamais d'argument pour convaincre la représentation nationale. Et donc, le ministre peut se prononcer, au lieu de perdre le temps, qu'il se prononce. Nous attendons que la suppression de la taxe RAM, dès que la taxe RAM est suspendue, mais le débat sera clos. Ce qui va rester, c'est la mise en place d'une commission qui va enquêter sur l'argent déjà prélevé dans nos téléphones, les comptes dans lesquels cet argent était logé, mais aussi ce qu'on a fait, ce que le ministre Kiba Samaliba a fait avec l'argent qu'il a perçu dans les téléphones des paisibles citoyens depuis 6 mois.
Dans un autre chapitre, 7 personnes tuées et plusieurs maisons saccagées, c'est le bilan provisoire d'une double attaque de présumés miliciens de la Codeco à Rimba et à Aou, 2 villages situés à plus de 100 km au nord de la ville de Bounia en Ituri, dans la chefferie de Pandourou, en territoire de Mahagi précisément. L'organisation dénommée les ambassadeurs de bonne volonté qui fait le monitoring sur la situation sécuritaire condamne ce qu'elle qualifie de barbarie qui a ciblé des enfants parmi les victimes. Le récit de Martial Kizabiamungu.
Les habitants du village de Rimba, à plus de 10 km de Nyoka, ont été surpris vers 20h locales par des coups de feu qui provenaient de toutes les directions. Des sources locales affirment que ce sont des hommes armés identifiés aux assaillants de la Codeco et en provenance de Dera qui ont attaqué les centres de recherche de l'entreprise publique Inera Nyoka. Ici, selon l'organisation, les ambassadeurs de bonne volonté, ces malfrats se sont introduits dans des maisons d'habitation où ils ont tué par balle 5 personnes et blessé 2 enfants. Son coordonnateur, Sylvain Aguenrot, indique que ces rebelles ont apporté avec eux 17 motos. Une autre source de la société civile dans la région ajoute qu'un autre groupe d'assaillants a attaqué dans la même nuit les centres commerciaux d'Aou, dans la même chefferie. Mokili Mungunuti, un des notables de Mahagi, indique que ces bandits ont tué 2 personnes dans ce village et blessé plusieurs autres. Il ajoute que ce bilan pourrait s'alourdir car les recherches des personnes portées disparues continuent. Les décès ne se sont pas encore prononcés. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Et puis, au Nord Kivu, le président de la société civile du territoire de Masisi dénonce les pillages, les travaux forcés et les arrestations arbitraires menées par des miliciens aux groupes armés et plusieurs formes de tracasseries qui sont enregistrées au quotidien par la population locale. Selon cette source qui a requis l'anonymat, les groupes armés mais confondus notamment les APCLS, les Nyatura, les FDLR et même certains militaires des FARDC font vivre le calvaire à la population de la zone. Le président de la société civile de Masisi Centre confirme toutes ces informations et ajoute que ces mêmes groupes armés s'affrontent quotidiennement dans la région et retournent par la suite contre la population à travers les pillages. Cet habitant de Nyabiondo qui lance un cri d'alarme envers les autorités militaires pour mettre fin à cette situation. On l'écoute.
Nous souffrons beaucoup parce qu'ils entrent dans le village, arrêtent les gens arbitrairement, ils frappent les gens et pillent. La situation a trop duré. Nous sommes fatigués à informer le gouvernement par des rapports, mais sans suite. Il y a des barrières à Luibo, à Kinyumba, à Lukoko, Kaanja et vers Mahanga. Sur ces barrières, si tu as acheté un bassin ou un bidon vide, on te fait payer 3 à 5 000 francs congolais. Si tu viens du champ, on vide toute la farine dans les bassins et tu rentres main vide à la maison. Même les déplacés subissent cette situation et ne savent pas où aller. On leur force à effectuer les travaux de cantonnage et transporter les effets des militaires. Nous demandons aux autorités de mettre fin à ces groupes armés pour que la population retrouve la paix, aller au champ et faire étudier leurs enfants.
« En RDC, le nombre des victimes d'exécutions sommaires et extrajudiciaires a augmenté. Plus de 90% des violations ont été documentées au Nord Kivu et en Ituri, deux provinces de la RDC en proie aux groupes armés. C'est ce qui ressort en tout cas du dialogue interactif sur la RDC organisé par le Conseil des droits de l'homme mardi à Genève. Selon le docteur Denis Mukwege, la culture de l'impunité reste l'un des principaux obstacles à l'instauration de la paix en RDC. Le prix Nobel de la paix a invité à l'occasion le système des Nations Unies à mettre en place sans tarder une stratégie nationale holistique de justice transitionnelle. On l'écoute dans cet extrait choisi par Alain Irungmouchige.
À l'instar de n'importe quel peuple, les victimes congolaises n'ont-elles pas droit à la vérité, à la justice, à des réparations et à des garanties de non-renouvellement des atrocités en conformité avec les recommandations formulées dans les rapports mapping dans de nombreux pays, notamment au Rwanda, en Sierra Leone ou en République centrafricaine? Les Nations Unies se sont pleinement investies dans la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle. La plupart des opérations de maintien de la paix développe aujourd'hui des tâches dans le domaine de la justice transitionnelle. Le Conseil de sécurité considère que l'accès à la justice et à la justice transitionnelle est une condition de la pérennisation de la paix, confirmant l'intégration de la justice transitionnelle au sein des outils de maintien et de la consolidation de la paix. Malheureusement, mon pays, la RDC, ne bénéficie pas jusqu'à ces jours de tous ces efforts des Nations Unies dans la mise en place des mécanismes de la justice transitionnelle.
Faisons maintenant un détour par Matadi dans le Congo central où un changeur de monnaie a été tué hier soir à son domicile par des bandits armés. Le maire de la ville estime qu'il n'y a pas d'insécurité à Matadi mais que les cambistes sont eux-mêmes victimes de leur indiscrétion dans leurs opérations. Patti Nzuzi interdit aux changeurs de monnaie de travailler au-delà de 17 heures. C'est une correspondance de Nana Plurich Mambou.
C'est aux environs des 19h d'hier mercredi que les bandits armés ont fait irruption au domicile du changeur de monnaie situé au quartier Ville Basse dans la ville de Matadi. À en croire les témoins, avant de lui ravir son sac, ces bandits lui ont tiré une balle aux côtes et lui a égorgé à l'aide d'une baïonnette. La victime, âgée d'une cinquantaine révolue, a succombé sur les champs avant d'être conduite à la morgue. La société civile s'insurge contre la faiblesse dont font montre les autorités compétentes face aux criminels. Elle indique que c'est la 11e attaque contre un changeur de monnaie depuis que la criminalité est observée dans la ville de Matadi. Pour le maire de la ville de Matadi, il n'y a pas d'insécurité dans sa juridiction depuis qu'il a initié la patrouille mixte police FARDC. Patintuzi Wamakengedi attribue les attaques contre les cambistes à leur propre indiscrétion. Ils étalent l'argent en public, ils font des opérations financières et vendent leurs propriétés à ciel ouvert et parfois dans des heures tardives, renchérit l'autorité urbaine. Un arrêté est en gestation pour interdire aux changeurs de monnaie et toute autre activité qui gravite autour des finances de fonctionner au-delà des 17 heures et de loger l'argent en banque tous les jours après les services, a-t-il conclu. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Santé à présent. Au sud Kivu, l'épidémie de choléra suit une courbe exponentielle dans les territoires de Mwenga. Depuis le mois de septembre dernier, 199 cas sont enregistrés et 13 décès. Sur terrain, la riposte s'organise de mieux en mieux pour contenir la propagation du choléra favorisée par le manque d'eau potable à Kitutu. C'est ce qu'affirme à Radio Okapi David Kitoka, le médecin chef de la zone de santé de Kitutu au micro de Cynthia Bachizina Bizana.
Beaucoup de décès se font dans la communauté. Comme la zone n'a pas de moyens de transport, l'hôpital général même n'a pas d'ambulance pour acheminer ces malades depuis leur ménage jusqu'aux structures de soins. Ça pose vraiment problème. Sinon, nous implorons toute personne de bonne volonté pour venir en aide, malgré les interventions de certains partenaires, mais les défis restent toujours énormes dans tous les domaines. À Kitutu, il n'y a pas de l'eau, pas de sources aménagées, pas de captage d'eau, tout ça. Ça fait problème parce que la communauté n'utilise que l'eau de la rivière Elila et d'autres puits à ciel ouvert. Il y a des sites d'exploration qui ont été installés par le partenaire AIDS et UNICEF. Certains intrants qui viennent de MSF Hollande, mais aussi l'accompagnement de l'OMS. Mais jusque là, les gaps restent toujours énormes et à revoir. Parce qu'au finish, notre zone, c'est sa première expérience encore dans cette épidémie depuis trop longtemps. Alors il y a certaines planifications qu'on n'a pas vraiment accès comme ça s'est fait ailleurs.
L'actualité internationale.
En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya a trouvé son premier ministre de transition. Il s'agit de Mohamed Béovogui, 68 ans, un ancien expert du développement aux Nations Unies. Pour mémoire, Mamadou Doumbouya, qui a pris le pouvoir par un coup d'état militaire le 5 septembre dernier, a trouvé son bras droit. Il a nommé mercredi soir comme premier ministre du gouvernement de transition. Et puis au Pakistan, au moins 20 personnes ont été tués et des dizaines d'autres portées disparues dans un séisme de magnitude 5,9 sur l'échelle de Richter qui a frappé une région reculée au sud-ouest ce matin. Nous recevons des informations selon lesquelles 20 personnes ont été tuées, a déclaré à l'AFP le ministre de l'Intérieur qui ajoute qu'il y a eu aussi une centaine de blessés.
L'invité.
Notre invité, c'est Didier Kamoundou. Dans une lettre ouverte adressée au président Félix Tshisekedi sur l'impasse dans la désignation des membres de la CENI, ce député national plaide pour que la présidence de la CENI soit confiée à une femme. Il s'entretient ici avec Michel Kefindangoy.
Didier Kamoundou, bonjour.
Bonjour, monsieur Michel. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Vous venez d'adresser une lettre ouverte au président de la République concernant l'impasse dans la désignation de membres de la CENI. Qu'est-ce qui a motivé votre démarche?
Comme dit dans ma lettre, il y a impasse dans la désignation des animateurs de la CENI. La loi confie la responsabilité de désigner ses animateurs aux confessions religieuses. Je vous l'accorde. Cependant, ces 9 confessions religieuses, qui se sont d'ailleurs autoproclamées meilleures à la matière, n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et les politiques s'y sont mêlés, maléfiquement et diaboliquement, en tirant la couverture chacun vers son camp. Ils ont manipulé et divisé les confessions religieuses. Il y a Imalunda, c'était la première impasse. Il y a aujourd'hui Kadima, c'est la deuxième. Faudra-t-il attendre une troisième? Les confessions religieuses n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les choix de l'animateur principal de cette institution. Ça fait 2 ans que les discussions piétinent. Nous sommes bloqués et on s'achemine vers une crise grave à l'horizon. Voilà pourquoi je me suis adressé au président de la République. Je demande donc au chef de l'État de prendre ses responsabilités en main et d'user de son autorité en ordonnant la reprise du processus de désignation des animateurs de la CENI.
Pourquoi avoir adressé votre lettre au président de la République alors que ceux qui sont concernés et surtout par cette impasse sont les chefs des confessions religieuses?
Oui, la solution c'est le chef de l'État. De par notre constitution, il en a la capacité, il en a l'autorité, il en est compétent. Donc, il peut ordonner la reprise du processus. Il peut donner des orientations pour que la situation soit dégelée, soit décantée. Mais en tout cela, il y a quelque chose qui s'impose, la mise en place de critères objectifs, inclusifs, qui garantissent un processus équitable, transparent, démocratique et apaisé, comme je venais de le dire.
Et que préconisez-vous concrètement pour une suite favorable d'une CENI indépendante et crédible?
Je pense que si le processus n'est pas redémarré, je crains qu'un mauvais processus divise la nation et retarde inutilement l'organisation des élections. Je crains qu'on aboutisse à des manifestations de riz et aux violations graves des droits de l'homme qui en découleront inévitablement. Je crains que cela crée un climat défavorable aux investissements dans notre pays. Donc, il est important qu'on puisse trouver des solutions rapidement. Je crains aussi que la crise électorale qui en découlera empiète sur les efforts de pacification de l'Est du pays. Si nous devons y ajouter une crise électorale, ça va affecter les efforts du chef de l'État. Ça va affecter les efforts de nous tous, les députés, qui ont soutenu l'état de siège et qui continuent à les soutenir aujourd'hui, parmi lesquels moi-même.
Vous soutenez une candidature féminine à la présidence de la CENI. Qu'est-ce qui motive votre position? Pensez-vous réellement que une femme à la tête de la CENI serait une solution pour la tenue des élections crédibles et transparentes?
Pourquoi une candidature féminine? Oui, une femme ne sera pas certainement meilleure que les précédents présidents de la CENI. Mais je propose qu'on trouve un consensus sur une candidature féminine à la tête de la CENI parce que c'est une voie de sortie honorable pour tous. Il faut, d'après tout, qu'on sorte de ces bourbiers. De deux, la loi fondamentale nous impose d'associer les femmes à la gestion du pays à hauteur minimum de 30%. On est loin du compte, puisqu'après Mabunda, aucune institution aujourd'hui n'est dirigée par une femme. Une autre raison, puisque je pense qu'une femme à la tête de la CENI, ce n'est qu'équité. Les femmes sont nombreuses dans notre pays. Elles représentent plus de 55%. Pourquoi ce sont les hommes qui doivent diriger à 100%? Il n'y a pas une raison.
Didier Kamundu, je vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, le député national Didier Kamundu, interrogé par Michel Kefindango. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté à Kinshasa, il est 12h20. Infiniment merci à Élisée Chikota Mwamboui qui a coordonné ce journal sous la supervision éditoriale de Martin Sebou Djangwe. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net.